Vatican News, le journal, il est 8h30.
Grève générale mondiale en faveur du climat. Étudiants et lycéens se sont mobilisés en masse hier pour faire pression sur les dirigeants avant le sommet de l'ONU de lundi. Nous nous rendrons à New York où ils étaient des centaines de milliers à battre le pavé juste après les titres. Nous reviendrons ensuite sur les déclarations surprenantes des rebelles houthis. Ils proposent une initiative de paix et affirment envisager l'arrêt des attaques contre l'Arabie Saoudite. Éclairage dans quelques instants. Au sommaire également, la mobilisation massive des Algériens hier dans la capitale pour le 31e vendredi consécutif malgré les mesures extrêmement restrictives mises en place par l'armée. Et puis dans notre dossier, nous donnons la parole à un évêque indien, Mgr Dore Raj, l'évêque de Dharmapuri dans la région du Tamil Nadu au sud du pays. Il faisait partie du groupe d'évêques indiens en visite ad limina cette semaine au Vatican. Il nous a confié ses difficultés, son témoignage à la fin de ce journal.
Le journal Hélène Détombe.
Bonjour, des millions de jeunes mobilisés pour la planète en Australie, aux Philippines, en France, au Mexique ou encore en Ouganda. Des manifestations étaient organisées hier dans près de 160 pays. Une grande journée d'action en faveur du climat à la veille d'un premier sommet de la jeunesse sur le climat et avant celui des chefs d'État ce lundi à l'ONU. Les jeunes sont déterminés à faire entendre leur voix aux États-Unis notamment. New York accueillait hier un gigantesque défilé en présence de la suédoise Greta Thunberg, à l'origine du mouvement il y a un an, Loïc Loury.
Des slogans par dizaines, mais aussi des idées. Les jeunes qui défilaient hier n'étaient pas là pour sécher les cours. La mobilisation part d'un constat. Les politiques sont à la ramasse. Nous devons, dit Esmé, prendre le contrôle.
C'est nous qui allons subir les effets du changement climatique. Et les adultes ne font rien. Alors quelqu'un doit s'y coller.
Le discours dans la bouche de ces adolescents est bien rodé. La priorité ici, c'est de faire entendre raison à Donald Trump, dit Orla.
Donald Trump doit reconnaître que le changement climatique est là. Il doit en faire une priorité et essayer de contenir les dégâts.
Mais quelles mesures pour sauver la planète? Les pancartes brandies brassent large, justice pour les réfugiés climatiques, taxes sur les carburants ou simplement, selon Selena, l'interdiction des pailles en plastique.
Je crois qu'il faut juste interdire les choses néfastes et les gens finiront par s'adapter. On a connu un monde sans plastique, il faut revenir à ça.
Face à cette foule, les chefs d'État feront-ils seulement semblant d'entendre? Greta Thunberg à la tribune les met en garde.
Vous croyez qu'ils nous entendent? On va faire en sorte qu'ils nous entendent.
New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Des jeunes également mobilisés hier en Allemagne, alors que le gouvernement d'Angela Merkel, très attendu sur la question climatique, présentait sa stratégie. Berlin va investir au moins 100 milliards d'euros d'ici 2030 pour le climat. Le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. En France, la mobilisation pour la planète a été importante hier sur tout le territoire, mais c'est cette journée de samedi qui s'annonce être celle de tous les rassemblements. Plusieurs événements simultanés sont organisés, une marche pour le climat et contre l'inaction, un rassemblement contre la réforme des retraites et un appel des Gilets jaunes à une mobilisation historique dans la capitale, le tout sur fond de journée du patrimoine. Le président français Emmanuel Macron a appelé au calme. L'autre actualité de ce samedi, c'est cette annonce pour le moins surprenante faite par le chef des rebelles yéménites hier soir. Il affirme que les Houthis sont prêts à lancer une initiative de paix et à cesser toutes leurs attaques contre l'Arabie Saoudite. Après 5 années d'une guerre sanglante et dévastatrice pour le pays, les Houthis disent vouloir une réconciliation nationale qui n'exclut personne et attendent de l'ennemi saoudien qu'il pose un geste fort en échange. Les explications de Manuela.
L'intervention télévisée de Mehdi Machat, le chef des Houthis, ne doit rien au hasard. Elle intervient en effet 5 ans, jour pour jour après la prise de Sanaa, la capitale, par ses troupes. Et il ne propose aujourd'hui rien de moins qu'une initiative de paix. Celle-ci les engagerait à cesser toute attaque contre le territoire saoudien par des drones, des missiles balistiques ou autres moyens. En contrepartie, Riyad doit aussi cesser le combat, lever le blocus aérien, maritime et terrestre qui pèse sur le Yémen. Et le chef des Houthis de conclure, poursuivre la guerre n'est dans l'intérêt de personne. personnes, surtout pas des civils, qui paient depuis 5 ans le prix fort de cette guerre complexe. En témoigne le triste bilan qui en ressort aujourd'hui. Des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, un pays anéanti où sévit la pire crise humanitaire au monde. À dire vrai, cette annonce en déconcerte plus d'un, tant elle contredit la position adoptée par les Houthis jusqu'ici. Il y a une semaine encore, ils revendiquaient l'attaque contre des installations pétrolières saoudiennes. Attaques qui sont cependant imputées par l'Arabie et les États-Unis à l'Iran. La République islamique joue un rôle central dans cette affaire. Principal soutien des Houthis, on imagine mal que ces derniers aient fait cette proposition de paix sans son accord. Serait-ce donc un moyen pour faire baisser les tensions? Il semble qu'aujourd'hui, en tout cas, la balle soit dans le camp de l'Arabie saoudite.
Manuela Affigé, toujours suite à cette attaque contre les installations pétrolières saoudiennes, Washington a annoncé hier l'envoi de renforts militaires dans le Golfe, ainsi que de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran, les plus sévères jamais imposées à un pays, a précisé le président américain Donald Trump. C'est le système bancaire iranien qui est concerné. Paris perdu en Algérie pour l'armée. Des milliers de manifestants se sont rassemblés à Alger hier malgré l'interdiction aux habitants d'autres régions de se rendre dans la capitale et en dépit des arrestations de ces derniers jours. Des manifestations pour le 31e vendredi consécutif, quelques jours après l'annonce de la tenue d'élections présidentielles en décembre prochain. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation. On fait le point avec Leïla Berato.
Venus de Bab el-Oued, de la place du 1er mai, des hauteurs d'Alger, ils étaient des centaines de milliers à converger vers le centre-ville. Un nombre que l'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois et une foule qui répétait qu'elle refusait d'aller aux élections dans ces conditions. Pourtant, les forces de l'ordre, qui étaient très nombreuses dans la capitale, avaient mis en place des barrages routiers, procédé à des contrôles d'identité et il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations dans le pays. Les manifestants, en voyant l'importance de leur mobilisation, se félicitaient les uns les autres. Il y avait beaucoup de femmes, d'enfants, de groupes de supporters et c'était un cortège extrêmement déterminé qui répétait « pas d'élection avec cette mafia » ou « on ne votera pas, dites à Ben Salah qu'il s'en aille ». Les critiques étaient particulièrement dirigées vers le chef d'état-major. L'un des slogans les plus répétés à Alger mais aussi dans d'autres villes, c'était « le peuple veut la chute de Gaït Salah ». Enfin, on a aussi entendu « écoute-nous, Gaït Salah, on a dit un état civil, pas militaire ».
Leïla Berato. En Égypte, des centaines de personnes ont manifesté au Caire, la capitale et dans plusieurs villes du pays pour réclamer le départ du président Abdel Fattah al-Sissi. Plusieurs manifestants rassemblés la nuit dernière sur la place Tahrir au lieu de la révolution de 2011 ont été arrêtés. Quelques jours après le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie, l'heure est aux tractations. Si le candidat emprisonné Nabil Karoui a enregistré peu de soutien officiel de candidat vaincu, en revanche, l'universitaire Kais Saied, arrivé en tête du scrutin, vient de recevoir l'appui du parti Ennahda. Les précisions de Michel Picard.
Sans grande surprise, le parti d'inspiration islamiste va soutenir officiellement la semaine prochaine le candidat conservateur. Annonce faite par le président du conseil de la Choura du mouvement Ennahda, qui a précisé que la priorité de son parti était les élections législatives du 6 octobre. Un scrutin pour lequel Kais Saied ne présente aucun candidat puisqu'il n'a précisément pas de parti politique. Le vainqueur du premier tour se plaît à rappeler régulièrement qu'il est hors parti et qu'il n'envisage aucun changement de cap malgré les ralliements. Avec ce soutien d'Ennahda, si l'on reporte les pourcentages de voix des différents candidats au premier tour qui se sont déclarés en faveur de Kais Saied, celui-ci pourrait déjà compter sur quasiment 50% des voix. Mais les reports de voix ne sont pas un exercice mathématique et nul doute que le ralliement officiel d'Ennahda risque de réveiller le sentiment anti-islamiste qui avait primé lors de la dernière présidentielle. Si les ralliements actuels visent officiellement le second tour du scrutin présidentiel, les partis cherchent aussi à se positionner face aux électeurs en vue des législatives qui pourraient confirmer le rejet des partis traditionnels. Tunis, Michel Picard pour Radio Vatican.
Nouvelle attaque au Burkina Faso. 5 soldats ont été tués hier. Ils ont été pris dans une embuscade dans le nord-ouest du pays, dans la localité de Tweni, proche de la frontière malienne. Une multiplication des violences au Burkina Faso qui inquiète l'Église. Pour Monseigneur Pierre Claver Malgo, l'évêque de Fadangourma, l'État islamique menace gravement la présence chrétienne dans le Sahel et les déplacés sont de plus en plus nombreux. Avant de passer à notre dossier, je vous rappelle que le pape François effectue aujourd'hui une visite pastorale à Albano, une ville proche de Castel Gandolfo, un déplacement organisé le jour de la fête de Saint-Matthieu, une date personnellement significative pour le Saint-Père puisqu'elle correspond au jour où il a ressenti l'appel à la vocation sacerdotale. Le pape est attendu sur place un peu après 17h, un événement à suivre bien sûr à l'adresse vaticannews.va. Un groupe d'évêques indiens était cette semaine en visite ad limina au Vatican. Le pape François les a reçus en audience mardi dernier durant environ 2 heures. Les 56 évêques venus du sud de l'Inde ont également visité différents dicastères de la curie romaine, l'occasion de revenir sur leur mission et les défis auxquels ils font face dans le pays. En mai dernier, le parti nationaliste hindou, le BJP, du premier ministre Narendra Modi, avait remporté à une majorité écrasante les législatives avec une campagne centrée sur les thèmes de la sécurité nationale et la promotion de l'hindouisme. En Inde, les chrétiens représentent un peu plus de 2% de la population sur les 1,3 milliard d'habitants dont la majorité est hindoue. Monseigneur Dore Raj est l'évêque de Dharmapuri dans la région du Tamil Nadu, située au sud de l'Inde. Il nous présente son diocèse et évoque les difficultés rencontrées par les chrétiens.
Il y a dans mon diocèse 3 millions d'habitants, dont 55 000 catholiques seulement. La plupart des gens sont pauvres, agriculteurs, et il y a beaucoup d'analphabètes dans mon diocèse. Et aussi, nous avons, comme ailleurs en Inde, les Dalits catholiques. Les Dalits, ce sont des hors-castes. Et ils sont très pauvres. Ils n'ont pas les privilèges du gouvernement, les privilèges qui sont donnés aux hindous Dalits, par exemple. Et donc, ils en souffrent beaucoup.
Donc, une grande pauvreté. Votre devise est d'ailleurs « Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres ». Votre église est une église pauvre pour les pauvres. Et votre présence sur ce terrain auprès des plus vulnérables, comment s'organise-t-elle ?
Nous soutenons les pauvres avec l'aide financière pour les études et aussi pour le soutien médical. On a 40 paroisses dans mon diocèse et il n'y a que 4 paroisses en ville. Tout le reste sont en pleine campagne. Et les gens pauvres nous apprécient beaucoup pour notre aide, mais nous ne ferons pas beaucoup parce que la pauvreté est tellement répandue et tellement grande.
La situation des chrétiens en Inde est très différente d'une région à l'autre. Certains vivent en paix, d'autres se disent discriminés, menacés. Comment avez-vous vu évoluer les relations entre hindous et chrétiens, hindous et catholiques à Dharmapuri?
Dans le passé, il y avait un entendre bien entre les hindous et les chrétiens. Mais depuis 6 ans, nous avons un parti politique fondamentaliste au centre de l'Inde. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus intégristes, hindous. Et à cause de cela, de temps en temps, il y a des petites persécutions chez nous, même à Dharmapuri. À cause de ça, la relation parfois s'empire entre les hindous et les chrétiens. Mais c'est ici et là, pas partout, c'est ici et là. Ça arrive de temps en temps. Nous ne sommes pas tellement menacés.
Craignez-vous malgré tout la mise en place de nouvelles lois discriminantes à l'égard des minorités?
Oui, j'ai peur que oui, parce qu'avec le parti fondamentaliste hindou au centre, ça va arriver. Justement, on a parlé avec le pape, on essaye maintenant de changer la constitution indienne. Ça va favoriser la majorité hindoue et ça sera contre la minorité, y compris les musulmans.
Quels sont les pas accomplis en termes de dialogue interreligieux?
Nous accueillons beaucoup les hindous, les musulmans, mais ça arrive seulement de temps en temps. Il n'y a pas un effort prolongé. Ça arrive pendant les fêtes hindoues, les fêtes musulmanes. Il y a des dialogues, mais sinon, on reste chacun dans son coin, on peut dire.
Cette visite à Limina a donc été l'occasion d'une rencontre avec le pape, mais aussi de rencontres avec les différents membres de dicastères. Qu'attendez-vous de ces échanges?
On a bien apprécié l'écoute des dicastères et également du pape. Il nous a bien écoutés. Les dicastères et le pape connaissent maintenant bien les problèmes que nous devons faire face en Inde chez nous.
Voilà, c'était le témoignage de Mgr Dore Raj, l'évêque de Dharmapuri. Il était ce matin l'invité de la rédaction. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, ce sera à 13h. Je vous souhaite d'ici là une très belle matinée. Au revoir.